Bonjour à toutes et à tous, Isabelle Dupuis pour ce journal de la radio des Nations Unies, avec en titre les réactions de l'ONU à la situation au Burundi, le point sur la signature des accords de paix au Mali, retour sur la situation humanitaire au Yémen, l'Assemblée générale se mobilise suite aux séismes qui ont frappé le Népal et conclusion des travaux du Forum sur les forêts. Nous marquerons également la célébration de la Journée internationale des familles. On commence avec le Burundi où, selon les médias, le coup d'État contre le président Nkurunziza aurait échoué alors que la situation reste tendue. Jeudi soir, Ban Ki-moon a lancé un appel urgent au calme et à la retenue. Le secrétaire général a condamné la tentative d'évincer par la force le gouvernement élu et a appelé au strict respect de la Constitution et de l'accord d'Arusha. Sur le plan humanitaire, le Haut Commissariat pour les réfugiés indique que plus de 105 000 Burundais ont fui vers les pays voisins par crainte des violences qui pourraient éclater avant le scrutin présidentiel en juin. Alpha Diallo.
Le nombre de réfugiés burundais a plus que doublé en une semaine, alors que vendredi dernier on en dénombrait 50 000. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés avance désormais le chiffre de 105 000. Depuis le début des troubles préélectoraux au Burundi, plus de 70 000 civils se sont ainsi réfugiés en Tanzanie voisine, alors qu'il n'était que 17 000 il y a une semaine. Ils sont également plus de 26 000 à fuir au Rwanda et près de 9 200 dans la province de Sud-Kivu, en République démocratique du Congo. Mais ces estimations pourraient même être vues à la hausse, d'autant plus que des informations indiquent qu'au moins 10 000 personnes attendent de traverser la frontière tanzanienne. Et sur le front rwandais, les agences humanitaires lient la chute du nombre de réfugiés par ces checkpoints érigés par des policiers et des miliciens proches du pouvoir qui empêchent les civils de fuir au Rwanda. Et sur le terrain, cet afflux de réfugiés rend la situation difficile, surtout en Tanzanie, où l'OHR fait état de dures conditions de vie en raison notamment de manque d'eau potable, de latrines et d'abris. Sans oublier que les services de santé sont submergés.
L'accord de paix pour le Mali doit être signé ce vendredi à Bamako, la capitale du pays. Seuls deux des trois partis, le gouvernement et la plateforme, devraient le signer. Le troisième, la coordination des mouvements de l'Azawad, ne compte pas en faire autant. Même si elle a paraphé jeudi l'accord de réconciliation d'Agé, la CMA souhaiterait en effet continuer les discussions. Pour l'ONU, il s'agirait néanmoins d'un bon pas en avant. Les explications d'Arnaud Akodjenou, représentant spécial adjoint de la mission de l'ONU au Mali.
Ce qui ici est proposé répond sincèrement aux volontés des hommes qui, à un moment donné, ont brandi une recherche d'autonomie, un exercice de fédéralisme, ou qui ont été même beaucoup plus loin. Nous sortons où le côté républicain n'est pas remis en jeu. Nous sortons où le côté intégrité territoriale n'est pas remis en jeu, mais qu'à l'intérieur du pays, des parcelles d'autorité dans la gestion de la chose publique reviennent à des hommes ou des femmes élus. Cette politique de régionalisation, de décentralisation de la gestion de la chose publique et de la possibilité qu'à l'échelle régionale, que des hommes et des femmes prennent en main leur destin, mais destin naturellement contrôlé au sein d'une république, contrôlé au sein d'un État et contrôlé en termes même de ressources mises à leur disposition.
On reparle du Yémen et ce alors que la trêve de 5 jours est respectée tant bien que mal. Ce vendredi, le coordonnateur humanitaire dans le pays, Johannes van der Klauw, intervenant par téléconférence lors d'un point de presse à Genève, a déclaré que la situation humanitaire au Yémen demeure extrêmement préoccupante et que les besoins ne cessent de croître. Selon lui, cette situation est la conséquence à la fois du conflit et de l'application de l'embargo sur les armes. Il a une nouvelle fois mis en garde contre le risque de pénurie de carburant.
Le conflit a eu un lourd impact sur les civils. 2 mois après le début du conflit, nous avons enregistré, et ce sont des chiffres conservateurs, que plus de 1600 personnes ont été tuées et que plus de 6200 ont été blessées par des frappes aériennes et bien sûr par les combats sur le terrain. Les chiffres concernant les déplacements semblent désormais indiquer que jusqu'à 450 000 personnes ont été nouvellement déplacées. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 29 000 yéménites et étrangers ont d'ores et déjà quitté le pays.
Au siège, l'Assemblée générale a organisé une réunion sur la situation humanitaire au Népal. L'occasion pour le secrétaire général de souligner l'urgence de fournir des abris à 500 000 de personnes avant la saison de la mousson qui doit débuter en juin et d'avertir du risque que les pluies ne déclenchent une importante épidémie de choléra. Ban Ki-moon a déploré que des années de développement avaient été anéanties au Népal et s'est inquiété du fait qu'à ce jour, seulement 14% de l'appel éclair de 423 millions de dollars pour le Népal ont été financés. On l'écoute.
Alors même que nous traitons ces besoins urgents, nous devons penser à l'avenir, conscients de la continuité entre l'aide d'urgence et l'appui au redressement et au développement. Les secours d'urgence ne suffisent jamais. Sauver des vies, c'est important, mais les populations doivent aussi pouvoir assurer leurs moyens d'existence. Elles veulent un avenir. Les apports d'argent liquide et les emplois d'urgence représentent une aide intérimaire, mais les efforts déployés pour stimuler les petites et moyennes entreprises et utiliser des ressources et la main-d'œuvre locale auront des retombées positives à bien plus long terme.
Ce vendredi marque aussi la fin de la 11e session du Forum des Nations Unies sur les forêts. Pendant 2 semaines, les experts se sont rencontrés et 7 semaines, de nombreux ministres de l'Environnement ont fait le déplacement pour discuter de l'après-2015. Parmi eux, Ralava Beboa Rimissa, ministre de l'Environnement, de l'Écologie, de la Mer et des Forêts de Madagascar. Présent lors du segment de haut niveau, il évoque ce qu'il attendait de cette réunion et en quoi ce type de réunion peut servir les intérêts des différents pays concernés.
Ce forum est important pour nous déjà pour voir un peu ce que font les autres pays, mais en même temps aussi pour essayer d'aller avec les autres pays pour former une politique au niveau international et pour justement voir un peu sur la partie, par exemple, sur les fonds forestiers et sur tout ce qui est gouvernance forestière mondiale. Il y a des groupes de travail donc, au sein du groupe Afrique et que ça, je trouve que c'est vraiment pas mal et qu'on essaie de voir aussi quel type de financement, quel type de mécanisme pérenne on peut mettre en place, notamment dans la région de l'Afrique.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité au Burundi où l'évolution de la situation ces 2 derniers jours suscite les vives inquiétudes du Haut-Commissariat aux droits de l'homme qui lance un appel urgent au calme et à la retenue. Le Haut-Commissariat met notamment en garde contre tout acte de représailles qui pourrait aggraver l'instabilité politique et exhorte les leaders politiques et militaires à ouvertement rejeter la violence et à s'abstenir de tout acte de vengeance. Les explications de Scott Campbell, chef de la section Afrique 2 au Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Il est au micro d'Alpha Diallo.
Nous suivons les derniers développements avec beaucoup d'inquiétude, surtout pour la population civile burundaise qui est aujourd'hui au risque, disons, des actes violents ou des violations des droits de l'homme commises par plusieurs parties qui sont actuellement sur le terrain au Burundi. Donc nous craignons pour la protection des civils et surtout aussi pour les activistes droits de l'homme, les journalistes, membres des partis politiques qui pourraient être ciblés dans les actes de représailles par les différentes parties sur le terrain.
Et par rapport aux actes de représailles, est-ce que vous avez des informations par rapport au sort réservé aux putschistes arrêtés ce matin à Bujumbura?
Jusque-là, c'est difficile à confirmer quoi que ce soit. Mais évidemment, le commissariat appelle tous les partis à la retenue, à la non-violence et de respecter les droits humains. Évidemment, nous sommes préoccupés pour le sort de ceux qui auraient été arrêtés dernièrement. Pour des centaines de personnes qui se trouvent en détention actuellement, nous avons reçu les rapports de mauvais traitements, de torture dans les différents lieux de détention. Donc nous craignons pour toute personne qui serait aux arrêts. Et surtout, nous craignons pour le sort des activistes de droits de l'homme. Il y a notre collègue Pierre Claver Monipa, par exemple. Il y a beaucoup de journalistes des différentes radios privées et publiques et pour les membres des partis politiques au Burundi aujourd'hui.
On sait que les médias aussi ont été un grand enjeu lors de cette tentative de putsch avec des attaques systématiques contre les radios privées et aussi une tentative contre la radio nationale. Comment jugez-vous de façon générale la situation des médias au Burundi?
C'est toujours difficile d'être journaliste au Burundi, vu les limites sur la liberté d'expression. Il y a eu des journalistes arrêtés à cause de leurs propos. Au dernier moment, il y a eu plusieurs cas de profils élevés. Et donc, les journalistes sont face à plusieurs restrictions, disons, de leurs droits aujourd'hui au Burundi. Et ils doivent exécuter leur boulot avec beaucoup de prudence, beaucoup de soin. Et donc là, ça prive quelque part la population burundaise du droit à l'information. Une chose que nous estimons qui est fondamentale comme élément pour le bon déroulement des processus électoraux à travers le monde.
Scott Campbell, après diverses manifestations meurtrières contre la candidature de l'actuel président, il y a eu cette tentative de putsch avortée. Comment voyez-vous l'avenir de ce pays? Que redoutez-vous le plus désormais à la situation des droits humains au Burundi dans les prochains jours?
Notre crainte principale, c'est pour la protection de la population civile. Et évidemment, vu ce qui vient de se passer au Burundi, nous craignons qu'il y ait des représailles contre les uns les autres, des règlements de compte liés directement avec la tentative de coup d'État ou avec d'autres situations. Donc c'est une situation où nous pensons essentiel que les leaders politiques Et les autorités de défense, de sécurité aussi doivent insister à tout et chacun qui reste calme et à la retenue et qu'on évite à tout prix la violence, les violations des droits de l'homme, les actes de représailles contre qui que ce soit. Et donc, effectivement, nous avons des craintes assez importantes dans les jours qui viennent, mais nous comptons sur le leadership qui est sur le terrain, de tous les côtés, et militaires et civils, et même les leaders des groupes de jeunesse. Tous ces leaders doivent faire des appels eux-mêmes à la retenue, au respect des droits de l'homme. Et sinon, évidemment, notre bureau et d'autres institutions internationales veillent. Nous suivons de près la situation.
Les hommes en charge, égalité des sexes et droits des enfants au sein des familles contemporaines. C'est là le thème de la Journée internationale des familles que l'on célèbre en ce 15 mai. Dans un message, le secrétaire général s'inquiète du fait que dans de trop nombreux pays, la discrimination contre la femme et le mépris des droits des enfants demeurent au cœur des politiques de droit familial et que de nombreuses normes sociales justifient des pratiques discriminatoires. Pour mieux comprendre, Christina Silvero a reçu dans nos studios Jean-Pierre Gonneau, chef de la section de l'intégration sociale au département des affaires économiques et sociales.
De plus en plus de femmes sont reconnues en tant que partenaires à part entière qui participent sur un pied d'égalité avec les hommes aux décisions concernant la famille, ce qui aide à créer un environnement très favorable à l'épanouissement complet et harmonieux de l'enfant. Malheureusement, et malgré d'indéniables progrès, dans trop de pays, les normes sociales, les politiques publiques et même le droit de la famille tolèrent et souvent justifient des pratiques discriminatoires, voire de violence et d'abus à l'égard des femmes et font très peu de cas des droits de l'enfant. L'objectif de cette journée est donc de dire clairement que de telles lois et de telles pratiques discriminatoires n'ont aujourd'hui absolument plus leur place dans la société, dans aucune société, et de manifester l'engagement de la communauté des nations pour y mettre fin.
Alors, quels sont les principaux défis qu'affrontent les familles aujourd'hui, et notamment en Afrique ?
L'Afrique est un pays où on observe une complexité, une diversité de situations assez importantes. Dans plusieurs pays d'Afrique, des situations de crise ont entraîné des modifications importantes aux textes régissant les rapports entre hommes et femmes, ainsi qu'en matière de droits de la famille. C'est le cas des pays très affectés par l'épidémie de Sida, qui a conduit à la reconnaissance de fait des familles monoparentales, des familles dont les chefs sont les grands-parents, ou même les familles où le chef est un enfant. Des changements similaires ont aussi été observés à la suite du génocide au Rwanda, des guerres civiles au Libéria et au Sierra Leone, ainsi qu'à la suite de l'abolition du régime d'apartheid en Afrique du Sud. On observe aussi, ça et là en Afrique, de fortes résistances au changement dans un contexte, je dirais, de pluralité de normes. On a à la fois une coexistence d'instruments régionaux des droits de l'homme qui sont relativement récents, des codes de la famille nationaux qui sont encore souvent hérités de la période coloniale et qui sont tout entiers centrés sur la famille nucléaire, ne reconnaissent pas la famille étendue, ainsi que tout un système de droits coutumiers ou religieux.
Alors justement, quels sont les changements de mœurs qui doivent être effectués dans les rôles attribués à chaque genre, père et mère ?
C'est, comme le suggère le thème même de la journée qui met les hommes au cœur du changement, c'est vraiment à la fois le défi et ce qu'il y a de plus important. Le changement des mœurs et des mentalités passe par un changement de comportement des hommes et des garçons. Et l'expérience nous montre que l'engagement communautaire est absolument essentiel à cet égard. C'est vraiment essentiel en ce qui concerne la prévention de la violence domestique, tenir les auteurs de ces violences domestiques responsables de leurs actes et soutenir les victimes. Mais si ça ne se passe pas dans un cadre où l'ensemble de la communauté de vie est engagée, il y a peu de chances que les mentalités évoluent. C'est encore plus difficile là où il y a les situations où les femmes sont entièrement soumises aux décisions des familles de type patriarcal. Dans ce type de contexte, la discrimination et la violence est en fait le fait de la famille elle-même. Et la prise de conscience et le changement des mœurs demandent à la fois un effort d'information, de conscientisation, d'éducation au niveau de la famille. Et je dirais au final, l'égalité de pouvoir de décision des femmes est l'élément essentiel de l'évolution des mœurs et des mentalités.
Et c'est avec Jean-Pierre Gonneau que se referme ce journal de la radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine. On se retrouve lundi, même heure, même fréquence.